superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire...
Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé.
C'est pas le temps de faire ça.
Loïc Tassé est avec nous. Loïc, bonjour.
Salut Benoît.
Écoute, juste une petite nouvelle qui vient de tomber. C'est l'acteur américain Ray Liotta qui est décédé aujourd'hui à l'âge de 67 ans.
Et ah, jeune quand même.
Ray Liotta, si t'aimais les films de gangster, si t'aimais les... Il a joué dans les films de Martin Scorsese.
Oui.
Il était un incontournable. On écoute un extrait d'ailleurs.
Tu me fais marrer. T'es vachement marrant.
Hein, comment ça, je suis marrant?
C'est marrant, c'est drôle ton histoire.
Ouais, ça, c'est la version française là, des affranchis là, de Goodfellas. Mais Ray Liotta décédé à l'âge de 67 ans. C'est Martino qui va avoir un choc parce que ça fait partie de la catégorie de films qu'on aime. Hein. Ouais.
Dis-moi, est-ce qu'on sait de quoi il est mort?
Pas jusqu'à maintenant, mais 67 ans. Et on retourne, nous autres, pendant ce temps-là, en Ukraine?
Ouais, pas mal de décès là-bas aussi, et surtout dans la région de Luhansk, les Ukrainiens ont annoncé ils étaient en train de perdre. Ils l'ont pas dit comme ça, mais ils disent, écoutez, la Russie a le dessus, et donc ils sont en train de reculer, ils sont en train de lâcher des villes. Faut dire qu'il y a une concentration énorme de forces russes dans la région, et les Russes parlent de chaudron. Qualifier leurs attaques quand ils encerclent un endroit, quand ils veulent prendre un endroit. Alors, les Russes disent autrefois, il y a quelques semaines encore, on prenait des grands chaudrons. Mais ça, ils n'arrivaient pas à vaincre. Donc, les Ukrainiens dans de grands chaudrons. Donc, ils ont rétréci le front. Et donc, ils se concentrent énormément maintenant sur des petites villes, sur des parties de villes, sur des villages. Et les Ukrainiens n'arrivent pas à résister parce que ils sont pas assez nombreux. Donc, ils préfèrent reculer plutôt que de perdre trop d'hommes. Mais ça fait avancer l'armée russe. Et donc, l'armée russe est en train de prendre complètement le Luhansk, qui est une des deux provinces du Donbass. Et ils avancent dans le Donbass. Et du point de vue de Poutine, les Russes avaient vraiment besoin d'une victoire morale, parce que il n'y avait pas de victoire morale plus qu'une victoire d'une victoire, parce que ils avaient perdu la bataille de Kiev, ils avaient perdu d'autres batailles, donc ça commence à peser lourd, et donc ils avancent, mais la question c'est est-ce qu'ils vont se maintenir. Et ça, probablement pas. Il y a personne qui voit comment ils vont vraiment arriver à se maintenir, parce qu'il va y avoir probablement, tout au moins, les États-Unis et leurs alliés l'ont annoncé, il va y avoir de plus en plus d'armements des pays de l'OTAN qui vont rentrer en Ukraine, et les Russes, eux, ils vont avoir du mal à se maintenir là. Il y a une partie de la population qui est tout à fait contre eux.
Mais là, ajoute à ça, Loïc, là, ce que Sylvain Charlebois vient de nous dire, oui. La crise alimentaire, l'agroalimentaire, qui est en partie aussi provoquée par l'invasion en Ukraine.
Oui, en fait, elle est provoquée par la Russie. L'Ukraine, par exemple, en termes d'exportation de blé, c'est 8% du blé dans le monde. Donc, c'est pas si énorme. Mais le problème, c'est que la Russie est la première exportatrice de blé, productrice et exportatrice de blé dans le monde, et qu'elle n'en exporte pas. Le problème, c'est que la Russie a cessé aussi d'exporter des fertilisants. Et ça, c'est essentiel pour l'agriculture. Donc, on se retrouve avec une offre qui risque d'être très réduite dans le domaine de l'agriculture. Et je parlais du blé, mais il y a les autres céréales en Ukraine qui sortent pas, qui sont dans les silos. Et il faut absolument les faire sortir parce que la nouvelle récolte rentre. Mais même si la nouvelle récolte rentrait et si on arrivait à faire sortir ces grains-là, les Ukrainiens disent parce que, étant donné la guerre, étant donné le prix des fertilisants, étant donné qu'on manque d'hommes dans les champs, on n'arrivera pas à produire plus que 50% de ce qu'on produisait normalement. Donc l'Ukraine va produire moins. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que des autres pays, comme le Canada, comme les États-Unis, la France, grand producteur aussi de blé, etc., est-ce que ces autres pays vont arriver à produire suffisamment pour compenser? En théorie, ils pourraient, mais il y a des problèmes climatiques. Inde, le réchauffement climatique dont je t'ai parlé il y a 2-3 semaines a comme conséquence que les grains sont beaucoup plus petits. Et donc, ça va poser un problème. Et il y a des pays qui commencent à restreindre les exportations. L'Inde a décidé de restreindre ses exportations de sucre. C'est le deuxième producteur mondial de sucre, parce qu'ils ont peur de manquer de sucre. Alors, non seulement on sait qu'on risque de manquer d'un certain nombre de produits, mais en plus, il y a les effets des changements climatiques qui se rajoutent à ça, et il y a la peur de manquer de nourriture qui fait en sorte qu'un certain nombre de pays décident de restreindre leurs exportations. Donc oui, M. Charlebois a parfaitement raison, on s'en va vers une inflation très forte des produits alimentaires et ça ne va pas se régler à l'automne seulement, ça risque malheureusement de se répercuter après, parce qu'en plus, il faut penser que les entreprises en ce moment, elles absorbent une partie du coût de l'inflation. Mais disons qu'il y aurait plus d'inflation dès demain matin. Mais les entreprises vont vouloir retrouver les mêmes marges de profit qu'elles avaient auparavant. Donc, elles vont continuer encore à augmenter leurs prix jusqu'à ce qu'elles retrouvent les mêmes marges de profit, ce qui signifie que les prix vont continuer à augmenter. Donc, oui, on est dans un cycle inflationniste. Et malheureusement, je pense pas que ça s'arrête en septembre. Il faudrait que la guerre en Ukraine cesse, par exemple, ou que quelque chose d'autre se produise. Comme ma deuxième nouvelle.
Ou que M. Poutine déboule les marches, puis qu'il puisse plus avoir le pouvoir, tu sais.
Qui tombe sur la tête.
Ben non, je lui souhaite pas de malheur, mais...
Non, mais moi, je lui souhaite un malheur. Ouais. Non, y a-tu assez de monde pour que je lui souhaite un malheur?
Exactement. Non, bon, visite secrète en Arabie Saoudite.
Oui, ça peut faire baisser les prix de l'inflation. L'Arabie Saoudite, plus grand producteur de pétrole au monde. Le pétrole, là, c'est à fleur au sol là, et ça coûte presque rien produire du pétrole là-bas. Donc, l'Arabie Saoudite a la clé, détient à elle seule une grande partie de la clé des prix du pétrole dans le monde. L'Arabie Saoudite, tiens donc, s'est entendue avec la Russie, il y a quelques mois, pour faire monter les prix. Parce que c'est des cartels, hein, ils s'entendent pour faire monter et descendre les prix. Joe Biden a envoyé deux conseillers seniors, Brett McGirt et Amos Erstein, pardon, qui sont deux conseillers seniors. Ils sont là en ce moment en Arabie Saoudite. Leur but, que l'Arabie Saoudite produise davantage de pétrole dans les mois qui viennent. Surtout en septembre, en fait, parce que c'est en septembre que l'entente entre l'Arabie Saoudite et la Russie prend fin. Et si les prix du pétrole baissent, ça veut dire qu'on peut faire des fertilisants à bien meilleur marché. Ça veut dire aussi, et tu le comprends facilement, que le prix de l'essence va baisser. Donc le prix des transports va baisser. Donc ça va avoir un effet très bénéfique sur un tas de choses. Encore que, si les prix du pétrole baissent, y a des entreprises qui vont se sentir très heureuses, puis qui vont relancer la production, puis on peut se retrouver quand même avec le même problème. Mais disons que, grosso modo, oui, ça devrait aider à faire baisser les prix s'il arrive si ces deux conseillers arrivent à négocier ce qu'ils veulent. Il y a Israël qui est là-dedans aussi, l'Égypte qui est là-dedans. Il y a deux îles qui appartiennent à l'Égypte, que l'Égypte donnerait finalement à l'Arabie Saoudite, deux petites îles qui sont proches de l'Arabie Saoudite. Puis avec Israël, on ne sait pas trop ce que ça donnera encore. Mais donc, il y a de grandes négociations qui se déroulent. On croise les doigts pour que l'Arabie Saoudite, en effet, décide d'augmenter sa production de pétrole.
Par bonté, hein?
Par totale bonté. Mais tu sais, ce qui est terrible là-dedans, c'est que Joe Biden voulait faire de l'Arabie Saoudite un paria au niveau international, parce que les États-Unis avaient été enfin autosuffisants en termes pétroliers, ou à peu près, puis qui même ils exportaient, et ils disaient, on va pouvoir enfin faire entendre raison à cet affreux régime. Ben non, cet affreux régime, on en a besoin au niveau mondial, on en a besoin pour contrer justement une famine qui semble se dessiner dans un certain nombre de pays, on en a besoin pour contrer l'inflation puis la misère qui va venir avec. Alors l'Arabie Saoudite gagne.
Ça va, c'est rassurant, hein, tout ça.
C'est comme ça que ça se passe, malheureusement.
Bon, et une nouvelle du gouvernement du Pakistan?
Ben, ça va pas bien au Pakistan. Tu sais, je t'en ai parlé il y a quelques semaines, je t'avais dit que le gouvernement, le premier ministre refusait de partir, parce qu'en fait, c'est un incompétent, il y a plein d'inflation, il a mal géré l'économie. Et finalement, les députés à l'Assemblée nationale au Pakistan ont dit « dehors, tu t'en vas dehors, on veut plus t'avoir comme premier ministre, on va nommer notre propre premier ministre, et voilà. » Mais non, il n'est pas content de ça, lui. Il veut être premier ministre. En fait, il veut des élections générales. Et il a été même jusqu'en Cour suprême du Pakistan. Puis la Cour suprême du Pakistan a dit non, les députés ont parfaitement le droit de choisir leur propre premier ministre. Il n'est pas nécessaire de déclencher une élection. Alors qu'a-t-il fait? Il s'est tourné vers le peuple. Et il a fait d'immenses manifestations à travers tout le Pakistan. Et il marche en ce moment vers la capitale Lahore avec des milliers de personnes. Le gouvernement pakistanais est un peu désemparé. Ils en sont rendus à mettre des grands containers en travers des autoroutes pour empêcher les autos de passer. Mais il s'approche de la capitale Lahore. Et lui, il a donné 6 jours au gouvernement pakistanais pour déclencher des élections. Alors qu'évidemment, le gouvernement pakistanais, on s'entend, c'est des élus. Hein. Lui, c'est un élu parmi tant d'autres, mais c'est pas lui qui est au gouvernement. Il essaie de faire chanter le gouvernement avec un mouvement populaire derrière lui.
Bon, ben, et la dernière nouvelle, là, je la cherche,
c'est pour toi. Ouais,
ouais.
De la bière.
Une nouvelle bière, oui.
C'est une nouvelle bière qui est sortie au début du mois.
Ça fait du sens, ça.
Qui s'appelle la Bretzerk. Donc, quelque chose comme ça, en tout cas, Bretzerk. C'est brassé par les maîtres brasseurs de Singapour à base d'urine. Et c'est une bière blonde, comme on s'en doute.
Homéopathique.
En fait, elle est faite à partir de l'eau qu'on appelle Ne Water à Singapour. Et c'est fait d'urine recyclée qui a été puisée à même les égouts de Singapour. C'est de l'eau qui est recyclée comme ça depuis une vingtaine d'années. Mais c'est la première fois qu'on en fait de la bière. Et si tu veux, ça a quelque chose d'un petit peu particulier. Évidemment, ça fait image de dire, ben oui, on se sert de l'urine pour faire de la bière. Bon, indirectement, en réalité. Mais il paraît que cette bière a un goût très fruité et qu'elle est très buvable, qu'elle est très bonne.
Vas-tu y goûter?
J'y goûterai.
Ah oui?
J'y goûterai, mais je suis pas sûr que... Disons que...
Mais en même temps, il n'y a pas de l'urine.
C'est très couleur urine, hein, cette bière, je dois te dire.
Mais ouais, ça...
C'est volontaire, là, ouais, mais...
Surtout les bières américaines qui goûtent la pisse, littéralement.
Ah mais non, mais ça goûte rien.
Non,
c'est ça. C'est des bières très mauvaises. Mmh. Heureusement qu'on a des microbrasseries ici, quand même, puis on a de la très bonne bière.
Il y a de l'urine.
Ça illustre aussi les problèmes d'eau à travers le monde, et en disant là-dessus, je me suis rendu compte qu'en réalité, dans beaucoup d'endroits dans le monde, aux États-Unis même, mais en Chine aussi, etc., on recyclait l'eau, les eaux d'égout, on les filtrait, etc., parce qu'on avait des problèmes d'eau qui étaient très, très importants.
Ah oui, il y a de l'urine partout, là, depuis le temps qu'il y a des hommes et des femmes sur la planète et des animaux. C'est sûr que tout ça, à un moment donné, on en a pris un petit verre ou deux. Ouais, bon appétit. OK, on se laisse là-dessus. Loïc Tassier, merci. À demain.
Salut, Benoît. Salut. À demain.